Mais oui, bien sûr.
Je le savais.
Eureka.
On l'appelle Mars la Rouge. Elle alimente les fantasmes des observateurs et des explorateurs de l'espace depuis plusieurs siècles. Cette planète tellurique, cousine de la Terre, a longtemps été observée de loin avant que progressivement des missions spatiales ne s'en approchent, la prennent en photo, s'y posent et l'explorent, développant au passage nos connaissances et résolvant quelques mystères. Depuis le début des années 1960, plus d'une quarantaine de sondes, orbiteurs, atterrisseurs et rovers ont été envoyés en orbite de Mars et à sa surface. Mais pourquoi nourrit-on une telle passion pour la planète rouge ? Mars, la vie en rouge, c'est la valse tellurique que nous danserons dans l'heure qui vient. Bienvenue dans Eureka. Et pour nous raconter cette progressive découverte de la planète Mars, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Thérèse Encrenaz. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes astrophysicienne émérite à l'Observatoire de Paris et directrice de recherche CNRS. Avec nous également François Forget. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes planétologue et directeur de recherche CNRS au laboratoire de météorologie dynamique de Sorbonne Université. Avant de démarrer notre discussion, je vous propose d'écouter une archive de 1957. Le journal télévisé de 20h avait trouvé un volontaire auvergnat pour partir à la conquête de Mars.
À quel titre seriez-vous amené à partir ?
En qualité, monsieur, d'explorateur, de voir ce qui se passe dans ce nouveau monde. Et d'autre part, il y a des étrangers qui se sont vantés d'être volontaires, et je ne vais pas qu'on dépasse un auvergnat. Nous n'avons pas de Spoutnik, nous autres en France, ni de Pamplouse. Mais en qualité de Français, je pose ma candidature.
Vous avez écrit, je pense, à l'ambassade du RSS. Avez-vous aussi écrit à l'ambassade des États-Unis ?
Oui. Oh, il y a déjà une quinzaine de jours.
Ils vous ont répondu ?
Non. Leur appareil a fait explosion quelques jours après. La Lune, c'est trop près. Je préfère partir dans Mars, si possible.
Mais c'est loin, Mars, quand même. Vous pouvez baisser votre bras, je vous en prie.
Je préfère Mars que toute autre chose. Et j'espère qu'il y a des êtres humains qui vivent dans ces lieux avec beaucoup plus d'intelligence que la planète de la Terre. C'est tout ce que j'ai à déclarer, ceci est dit.
Ceci est dit, Thérèse Encrenaz. En 1957, on croyait encore aux martiens, aux extraterrestres, à une présence d'humains dans Mars.
Oui.
Qu'est-ce qu'incarne cette archive ? Et est-ce que finalement, en 1957, on était encore dans des fantasmes complets autour de la planète rouge ?
Oui, tout à fait. Bon, je la connaissais pas, cette archive, elle est merveilleuse. Mais en effet, il y avait encore la conscience suite à la polémique qui avait eu lieu sur les canaux martiens quelques dizaines d'années avant. Il y avait encore une fraction de la population qui pensait qu'il y avait des êtres intelligents sur Mars. Mmh. En fait, il a fallu les premières sondes spatiales pour balayer ce mythe.
On va raconter bien sûr toute cette histoire de la longue exploration et observation de la planète Mars. François Forget, est-ce que la planète rouge, Mars, a toujours eu une place à part dans l'imaginaire collectif ? Est-ce que dès l'Antiquité, est-ce que dès les premières observations de cette planète-là, on l'imaginait autrement que Saturne, que d'autres planètes par exemple ?
Oh bah, vous savez, l'Antiquité, on savait pas trop ce qu'étaient les planètes. Enfin, le nom planète vient quand même de l'Antiquité. Mais par exemple, on voyait avant tout c'était un de ces astres errants. Les planètes, ce sont des astres errants qui passent dans le ciel au milieu des étoiles. Et effectivement, ce qui est particulier avec Mars, c'est qu'elle est vraiment rougeâtre. On le voit à l'œil nu, quoi. Il y a pas besoin de, donc on l'a toujours associé. Je me souviens avoir regardé un petit peu parfois l'étymologie dans les différents langages autour du monde et les différents mythes. C'est vraiment très clair, c'est toujours associé au sang, à la guerre. Donc Mars, c'est le dieu de la guerre. Et ça, c'est vrai en Mésopotamie, un peu partout. Donc ouais, il y a toujours cette association liée au rouge avant tout. Alors, quand on a commencé à réaliser que ça pouvait être d'autres mondes, là, c'est au milieu d'un faisceau de spéculations, etc. Je sais pas quand ça a commencé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dès le 19e siècle, là, on commence vraiment à avoir toutes sortes à la fois de travaux semi-sérieux, sérieux et de fiction sur ce sujet-là. Ouais.
Thérèse Encrenaz, si on en revient un petit peu à la genèse quand même de cette observation des objets planétaires comme Mars, dès l'Antiquité, qu'est-ce qu'on avait compris de son fonctionnement, de son orbite, par exemple, de ces choses-là ? Quelles questions on se posait sur cette planète ?
Pendant des siècles, on n'a connu que les mouvements des planètes. En fait, la physique des planètes, la connaissance des objets, elle commence avec Galilée. Quand Galilée, en 1610, pointe sa lunette vers le ciel, découvre les lunes de Jupiter, les satellites galiléens, là c'est vraiment le début de l'observation des planètes en tant qu'objets.
François Forget, sur ses premières observations, justement, grâce à la lunette, grâce à cet objet qui rend les planètes tout d'un coup beaucoup plus nettes et beaucoup plus palpables d'une certaine façon. Qu'est-ce qui se passe au XVIIe siècle? On parle de la lunette de Galilée. Je crois que Galilée lui-même a pointé sa lunette vers la planète Mars. Mais après lui, il y a Huygens, Cassini. Que vont montrer ces astronomes sur Mars?
Alors avant ça, Mars a joué un rôle énorme dans la révolution de la physique moderne parce que c'est vraiment l'objet qui a permis de comprendre que les planètes, grâce aux observations de Tycho Brahe, interprétées par Kepler, etc., que les planètes avaient des orbites elliptiques avec le Soleil en un des foyers, ce qui a permis ensuite à Newton de montrer « Ah bah oui, ça a du sens si on dit que Mars est retenu par une force proportionnelle à la distance au carré », bref, toute la révolution newtonienne. Et ensuite, du point de vue de l'observation de l'astre lui-même, oui, si on regarde, effectivement, il commence à y avoir des observations un peu sérieuses, bah oui, dès le XVIIe siècle, Cassini, Huygens, à l'époque, la France était très riche, alors on faisait des transferts depuis l'Italie, etc., puis tout le monde venait à Paris, payé par Louis XIV, et donc il commence à montrer que bah, Mars, ce qu'on voit avant tout, et encore maintenant, si vous regardez Mars dans une lunette, je vous invite à le faire, donc elle commence peu à peu à être visible, on voit des calottes polaires, en fait, on voit un truc rougeâtre, marronasse, puis un truc très brillant blanc. Donc ce sont des calottes polaires. On sait maintenant qu'essentiellement elles sont constituées de dioxyde de carbone avec un peu de glace d'eau, donc de la glace carbonique. Mais et à l'époque on les voyait comme ça sans trop comprendre. Vraiment les premiers travaux impressionnants c'est le découvreur de Uranus, Herschel. William Herschel, en 1777. Et alors lui, il fait des mesures assez systématiques et il voit que ces calottes polaires ont vraiment suivent le rythme des saisons. En fait, il détermine qu'il y a des saisons parce qu'il arrive à mesurer l'inclinaison de l'axe de rotation de Mars sur le plan de l'orbite et c'est ça qui détermine les saisons. Pendant ce temps-là, Cassini, enfin, 100 ans avant, Cassini et Huygens et compagnie avaient réussi à déterminer la durée du jour. Et là, on arrivait à un fait troublant, c'est que Mars a une durée du jour, une vitesse de rotation qui fait que le jour dure 24 heures et 40 minutes, presque comme la Terre, et que l'inclinaison de l'axe de rotation, c'est 25 degrés 2, c'est-à-dire presque comme la Terre. La Terre, c'est un peu plus de 23 degrés. Résultat, on se dit, mais ça, c'est comme une petite Terre, quoi. Et il y a le même cycle des saisons, même durée du jour, ça a l'air désertique, donc ça, c'est une coïncidence, en plus.
T'as raison, je crois que même à cette époque, on postule, alors Herschel postule l'existence d'une atmosphère, bien que ténue. Là aussi, ça participe, ce 17e et 18e siècle, à la naissance dans les idées des scientifiques, dans la tête des scientifiques, de Mars serait-elle une seconde Terre? Et justement, c'est ces premières observations-là qui sèment un peu le doute.
Oui, tout à fait. Je pense que Mars, assez vite, est apparu comme notre voisine la plus proche de nous. Du fait de sa surface désertique, qui rappelait beaucoup le désert terrestre, les calottes, justement, ça avait quelques analogies avec les nôtres. Donc, on espérait, en fait, trouver une certaine analogie avec la Terre, c'est certain. Et ça a certainement joué dans l'intérêt qui a été porté à la planète Mars.
Si on avance dans cette histoire des observations de plus en plus précises et de ces calculs de plus en plus précis autour de la planète Mars, il y a une année qui est capitale pour la découverte de Mars. C'est l'année 1877, François Forget. Pourquoi déjà cette année 1877 apporte autant de précision? Je crois que c'était lié à la position de Mars dans le ciel à ce moment-là, qui était en opposition. Alors expliquez-nous un petit peu quel type d'observations ont été réalisées à ce moment-là.
En fait, donc Mars est en orbite autour du Soleil comme la Terre, et elle est un peu plus éloignée, ce qui fait qu'en gros, tous les 26 mois, Mars et la Terre sont au plus près. Mais comme Mars a une orbite quand même assez excentrique, parfois elle est plus loin, tous les 20 ans, à peu près 20-25 ans, il y a un cycle. Et donc cette année-là, l'opposition, ce qu'on appelle, donc là, on voyait vraiment très bien Mars. Donc ça a permis deux découvertes importantes. Il y avait un Américain qui s'appelle Asaph Hall qui a découvert les toutes petites lunes de Mars, qui s'appellent Phobos et Deimos. Donc c'est toujours lié au monde de la guerre, terreur et peur. Donc Phobos et Deimos.
Une ambiance.
et puis surtout donc des observations par Schiaparelli, un Italien, et qui a, alors faut reconnaître qu'il a d'abord cartographié très bien Mars. Ça avait été fait par d'autres, mais il se trouve que les cartes qu'il a publiées à l'époque ont laissé des noms encore sur les cartes actuelles. Sinus Meridiani, tout ça date de ses travaux. Mais il a surtout ajouté qu'il voyait des lignes blanches Des lignes blanches, des lignes noires plutôt, des très rectilignes, ça l'a beaucoup impressionné, il a appelé ça canali, alors comme ça a été traduit par canaux en français et en anglais, et ça a donné lieu à, ça a allumé l'imagination d'autres personnes. En France, par exemple, Camille Flammarion, qui est célèbre, a vraiment été passionné par ça, et puis le plus connu, c'est un Américain qui s'appelle Percival Lowell, qui tout d'un coup s'est enflammé, il s'est dit, s'il y a des canaux, c'était la mode des canaux, hein. on creusait le canal de Suez, on rêvait de faire Panama, etc. Ensuite, ça, c'est hyper moderne, faire des canaux.
Ouais. Ah, donc si,
les Martiens, ils doivent en faire des canaux partout. Et donc, c'est devenu, ça a allumé l'idée qu'il y avait une civilisation avancée. Et après, c'est devenu un peu du délire, mais c'est assez intéressant hein, de regarder l'archive.
Et ce fameux Percival Lowell a quand même construit un observatoire en Arizona. C'était un riche américain qui s'est pris de passion complètement pour cette histoire-là, Thérèse Ancrenard.
Oui, en plus, d'ailleurs, les gens savaient déjà qu'il y avait très peu d'eau sur Mars et ça a alimenté l'idée que ces Martiens étaient extrêmement intelligents puisqu'ils faisaient des canaux d'irrigation. Mmh. Ça allait vraiment très loin dans les propositions.
Oui, et l'hypothèse, c'était qu'une population martienne, finalement,
luttait contre
une sécheresse.
Voilà, c'est ça. C'était assez... Et alors, ce qui est curieux aussi de voir, c'est que le pauvre Schiaparelli, en fin de compte, il n'a pas eu de chance parce que lui était relativement modéré dans ses propos. Il disait, je vois des traces rectilignes, mais c'est effectivement, comme tu dis François, Camille Flammarion et Percival Lowell, qui ont enflammé les esprits en parlant justement de civilisations avancées, intelligentes, et à partir de là, évidemment, c'était du délire.
Oui, et puis ce qui est intéressant avec Mars, et c'est une constante encore aujourd'hui, c'est que c'est une planète qui infuse aussi dans la culture populaire, dans la fiction. Au même moment, Gustave Le Rouge, qui est un peu le père de la science-fiction à la française, publie un livre qui s'appelle « La prisonnière de Mars », avec une population qui s'appelle les airs lourds, qui ressemble à des chauves-souris. Voilà, et à l'époque, on croit encore qu'on peut respirer sur Mars. Donc voilà, on envoie des gens là-bas, et puis tout se passe un petit peu comme si on pouvait coloniser la planète. Mais voilà, il y a un constant aller-retour, François Forget, entre culture, science, et tout ça se nourrit finalement.
Voilà, c'est de cette époque, encore maintenant, martien finalement est synonyme d'extraterrestre. Hein, et c'est vraiment quelque chose qui a marqué. Alors il y a plein d'œuvres de fiction qu'on peut citer, hein, depuis La Guerre des Mondes, qui est quand même aussi l'un des œuvres phares de cette époque-là. John Carter, c'était Edward Rice Burroughs. Hein, et puis jusqu'aux Chroniques martiennes finalement, qui sont plus de la fantaisie, même voire de la poésie par Bradbury. C'était écrit dans les années 40, mais c'est encore dans un monde martien où il y a des canaux, ça paraît une évidence. J'avais regardé un petit peu dans des journaux scientifiques très sérieux, les mêmes qu'on utilise encore aujourd'hui. Et donc c'est un journal qui s'appelle Icarus, que Thérèse connaît bien. Et j'ai des numéros d'Icarus des années 60 et il y a des articles sur les canaux martiens qui commencent, il y en a deux, et les deux commencent par dire que ces canaux ont été vus par tellement d'observateurs différents qu'ils ne peuvent pas être une illusion. Et là, c'est le moment qu'il faut le dire. C'était une illusion d'optique qui est liée à la manière dont l'œil humain, via un télescope, perçoit, a tendance à aligner, voir des lignes droites là où il n'y en a pas. Okay. Et c'était une vraie illusion d'optique qui avait déjà été dénoncée dans les années 30, déjà. Et beaucoup d'autres astronomes m'avaient dit, mais non, c'est une illusion d'optique, c'est connu, etc. Et malgré tout, jusqu'aux années 60, il y avait encore des chercheurs professionnels très sérieux qui disaient, il doit y avoir des canaux, on les a tellement vus.
On les voit, voilà. Thérèse Ancrenas, donc on a été un peu floué par cette illusion d'optique. Pour autant, il y a quand même eu des études qui ont continué à être menées sur Mars, autrement que sur les canaux. Oui. Je crois qu'au début du XXe siècle, on s'est pas mal intéressé à l'atmosphère de Mars.
Oui, tout à fait, parce que c'était le début de la spectroscopie, dans l'infrarouge en particulier. Donc, on a compris que l'atmosphère était essentiellement faite de CO2 et qu'il y avait extrêmement peu d'eau dans l'atmosphère. Ça, c'était des choses qui étaient bien connues. Et à propos de la controverse sur les canaux, on peut aussi rappeler d'ailleurs qu'il y a un astronome français, Eugène Antonioli, qui a joué un rôle important à l'observatoire de Meudon. Avec la lunette de l'observatoire, il fait partie des gens qui ont vraiment aidé à démolir le mythe et à remettre la vérité en place.
La vérité en place. François Forget, une réaction, non ?
Non, mais c'était pour raconter la suite finalement. Oui. On parle peu. Quand on parle de Mars, je suis sûr que les auditeurs ont déjà entendu parler de cette histoire de canaux. Mais il y a un autre aspect dans cette enquête scientifique qui a lieu autour de Mars, c'est dans quel état d'esprit on était dans les années 50 finalement. Et alors, j'ai la chance d'avoir pu récupérer un livre extrêmement sérieux par un astronome très sérieux qui s'appelle Gérard de Vaucouleurs, qui est d'origine française mais qui a fait toute sa carrière aux États-Unis. Et le livre est ultra sérieux. Il commence par dire foin des canaux, c'est n'importe quoi. Je vais écrire le livre de référence sur Mars qui se base que sur des faits avérés, prouvés, et tout le reste est faux. Alors pourquoi ? Alors donc ça c'est une enquête intéressante. Là, c'est très bête. Ils savaient déjà qu'il y avait du CO2, pas beaucoup d'eau, etc. Et puis alors, on arrive à mesurer les températures côté jour, côté Terre, avec dans l'infrarouge thermique. Donc on voyait qu'il faisait à midi sur Mars, il fait 20 degrés. Hein, la surface elle est chaude quand même. Donc ils voyaient ça. Et puis on arrivait à voir, comme vous l'avez évoqué, l'atmosphère par la tranche. On voit qu'effectivement il y a un limbe, on devine l'atmosphère, on peut regarder sa diffusion, surtout quand il y a une étoile qui passe derrière, et on se dit bon bah alors on voit qu'il y a une extinction. Si on fait l'hypothèse que c'est du gaz, bah l'atmosphère doit être quand même, la pression doit être relativement élevée quoi. Et parce que c'était pas tout à fait vrai. C'était du gaz avec des aérosols, il y a des poussières minérales, mais on ne le savait pas. Et donc on a surestimé l'épaisseur de l'atmosphère. Alors une fois qu'on fait ça, si on dit bah oh, il doit y avoir à peu près la moitié ou une atmosphère, l'équivalent de l'atmosphère terrestre en épaisseur, en pression, bah s'il fait 20 degrés côté jour, côté nuit, il doit faire 10 degrés. Donc tout ce qu'on voit là, c'est de la glace d'eau. Ça peut pas être de la glace de CO2, il faut qu'il fasse moins 130 pour de la glace de CO2. Donc tout était faux. Dans le livre, à un moment donné, il y a un article, un chapitre entier sur les calottes polaires. C'est comment ces calottes polaires sont constituées de glace d'eau. Il y a une petite alinéa de bas de page, et dans la petite note de bas de page dit, nous ne reviendrons pas ici sur l'hypothèse des calottes de glace carbonique qui a été démontrée comme fausse. C'est n'importe quoi. Et donc voilà, ce petit piège scientifique, je trouve qu'il est riche d'enseignement pour nous. De nos jours, on travaille un peu dans les mêmes conditions sur des planètes extrasolaires, je dois dire. Bah, ça fait que c'était tout faux, et on était obligé, comme on voyait qu'il y avait un petit peu de CO2, il fallait mettre beaucoup de gaz, alors on disait, ah, il doit y avoir beaucoup d'azote, un peu d'argon, et tout ça est très défini, il y a des tableaux avec des barres d'erreur, la pression est de temps plus ou moins 3, c'est n'importe quoi. Et c'est une bonne leçon, et c'était ça la vision sérieuse, et puis parallèlement dans le grand public, on continue à parler de martiens, de soucoupes volantes.
Et ça c'est intéressant, parce que Mars aussi est une planète qui a mis la science face à plein d'épreuves et a forcé aussi les scientifiques à une certaine forme d'humilité. Moi, j'ai autre petite anecdote, mais quand en 1896, on a définitivement abandonné l'idée d'océan à la surface de Mars, mais on s'est dit que c'était peut-être de la végétation. Donc, comme quoi aussi, on a pas mal évolué depuis, notamment grâce à des missions d'observation plus précises et d'exploration, dont on va parler tout de suite.
France Culture. Eureka. Antoine Beauchamp.
Je ne sais pas si c'est l'anniversaire de l'un de vous deux, mais en tout cas, c'était l'anniversaire du robot Curiosity qui se le souhaitait lui-même. Donc voilà, c'était la petite anecdote. En tout cas, on souhaite un bon anniversaire aux personnes qui nous écoutent, si c'est par hasard leur anniversaire. On en arrive donc aux années 60 et à la poursuite de l'observation et la découverte de la planète Mars avec des missions de survol de cette planète. Thérèse Ancrenaz, les Soviétiques ont tenté dans ce contexte de guerre froide de rivaliser avec les États-Unis, mais ce sont les États-Unis quand même qui ont emporté un petit peu, qui ont gagné un petit peu la timbale avec la mission Mariner 4. Est-ce que vous pourriez déjà nous recontextualiser un petit peu le contexte de ces missions-là ?
Oui, bah dans les années 60, effectivement, c'est manifestement la NASA qui a pris le devant de la scène. Et en fait, ce qu'il faut noter, c'est que le taux d'échec a été énorme. Il y a eu énormément, plus de 50% d'échecs. C'était extrêmement difficile même de tourner autour de Mars, encore plus de se mettre en orbite, encore plus de s'y poser.
Mars, c'est loin, il faut aussi 6 à 8 mois pour y aller.
Enfin, vraiment, il a fallu énormément de persévérance, c'est le cas de le dire, pour arriver. Donc, je crois qu'on peut s'attarder peut-être sur les succès. Le premier, c'est Mariner 4, donc. Je crois que c'était 64, c'est le lancement.
Lancement 64, et je crois que c'est l'anniversaire du survol de Mars par Mariner 4. C'était le 14 juillet.
14 juillet 65.
14 juillet 65. Sur Mariner 4, c'est vrai que c'est la mission révolutionnaire. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que la révolution est venue essentiellement d'une expérience scientifique qui était quasiment pas prévue. Bon, en gros, Mariner 4, c'est un grand succès quand même. C'est la première mission. Enfin, il y avait eu Mariner 2 vers Vénus avant, qui avait très bien marché. Mais vers Mars, c'est vraiment Mariner 4 la première. Puis, elle intègre déjà tous les composants des sondes spatiales modernes. C'est fascinant. Les ingénieurs qui ont créé ça, en quelques années, ils ont tout inventé. Alors, Mariner 4 elle-même, elle est lancée donc en 64, elle survole Mars le 14 juillet 65, elle prend des photos, pas de chance, elle survole plutôt l'hémisphère sud. Et l'hémisphère sud de Mars, bah, c'est des terrains très anciens avec beaucoup de cratères. Ça ressemble à la Lune, quoi. Donc, déjà, les images sont pas terribles. Vous pouvez regarder sur Internet. Mais on voit beaucoup de cratères. On s'attendait pas tout à fait à ce qu'il y ait des cratères. On savait pas du tout. Mmh. Et puis surtout, donc, cette expérience scientifique non prévue, c'est l'expérience qui a constitué à regarder ce qui se passait quand le signal radio passait à travers l'atmosphère. Et ça, on l'a vraiment calculé pendant la croisière de quelques mois. Et alors, on s'est dit, ah, bah, elle va passer dans la planète. Qu'est-ce qui va se passer avec le signal radio? On s'est rendu compte que le signal radio va être perturbé de manière très forte par la moindre présence de radio. C'est une méthode qu'on appelle les occultations radio, mmh, qu'on utilise beaucoup encore aujourd'hui. Donc la sonde passe derrière, on mesure la pression de manière très précise, 7 millibars, c'est-à-dire rien. 100 ou 1000 fois moins que prévu, quoi. Ouais. Ah bah, alors là, le choc, à l'époque, la une du New York Times, enfin, c'était surtout le Bruce Murray, que tu as peut-être connu, annonce Mars est morte. Mmh. Mars est morte, et là, on voit quoi? Presque pas d'atmosphère, des cratères, c'est la Lune, quoi. Et là, vraiment, on est parti tout d'un coup sur l'idée que, bah, c'était une Lune avec un peu de gaz, et puis c'est tout, quoi. C'était devenu tout à fait inintéressant. Il a fallu attendre plusieurs années pour que d'autres missions montrent que quand même, il s'est passé autre chose que sur la Lune.
Alors, puisque vous parlez du fait que Mars est morte, je vais vous faire écouter une archive de 65 qui justement met un petit peu en évidence cette espèce de déception qu'ont été ces découvertes-là.
Mariner 4, la fusée cosmique américaine, a tenu en haleine tout le réseau d'écoute scientifique des États-Unis. Comme la vedette d'un film d'Hitchcock, elle a fait durer le plaisir. On a vécu des heures de suspense dans les laboratoires. Radars tendus comme des oreilles et caméras d'enregistrement grandes ouvertes comme des yeux inquisiteurs pour recevoir les clichés de la planète Mars, ce fameux astre rouge qui inquiète tant les hommes depuis sa découverte. Le verdict de Mariner 4 a rassuré le monde. Mars a la physionomie bonhomme de la Lune. L'effrayante invasion de la Terre par les Martiens n'est plus désormais qu'un conte pour enfants turbulents.
Mars est morte, mais vive Mars, Thérèse Encrenaz. La NASA n'abandonne pas tout de suite l'idée de continuer à observer cette planète-là, voire de l'explorer.
Non, et je crois que pour rajouter ce que tu disais, François, le gros résultat de Mariner 4, c'est justement la fin des canaux martiens. Mmh. Parce que des images montrent clairement qu'il n'y a pas de canaux. Mmh. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, je pense, dans l'évolution du mythe.
Et par ailleurs, cette mission-là, François Forget le rappelait tout à l'heure, c'est aussi des missions qui, historiquement, dans l'histoire de l'observation spatiale, comptent énormément, puisque c'est la première fois qu'on survole une planète en envoyant des photos. Voilà, il y a tout un tas de mesures aussi qui sont mises en place. Mars aussi sert d'une certaine façon l'histoire de l'astrophysique, en tout cas de l'observation, grâce à des sondes spatiales. Alors on poursuit un petit peu dans le cadre de ces missions Mariner, avec la mission Mariner 9.
Entre-temps, il y a eu Mariner 6 et 7, oui. Mais qui n'a pas eu de chance pour deux raisons. La première, elle a encore survolé l'hémisphère sud, oui, plein de cratères. On voyait quand même là les calottes polaires. Mmh. On sert encore de certaines mesures de Mariner 6 et 7, mais surtout elle a survolé Mars au même moment que la mission Apollo 11 en juillet de... Alors c'était pas le...
Elle est passée un peu à la trappe.
Un peu à la trappe, au moins c'est...
Ça peut se comprendre.
C'est comme quand on gagne Wimbledon en même temps que la Coupe du Monde de football, c'est moins connu.
Enfin, c'est ça.
Alors effectivement, la grande révolution après, c'est Mariner 9 en 1971 qui découvre finalement, je dirais, la vraie planète Mars telle que nous étudions encore aujourd'hui. Mmh. Tout ce qui est écrit depuis, on n'a pas trop dit de bêtises depuis 1972, disons, avec les premiers travaux, les premiers résultats de Mariner 9 qui sont mis en orbite.
Justement, Thérèse Encrenaz, Mariner 9, qu'est-ce que ça permet d'établir en matière de connaissances sur Mars?
Déjà, Mariner 9, c'est un orbiteur et non pas des survols comme les précédents.
Une autre première d'ailleurs.
Oui, une autre première qui a été décisive puisque, si je me souviens bien, Mariner 9 est arrivé à une période de tempête de poussière. Il faut savoir que Mars, périodiquement, a des tempêtes de sable globales qui cache absolument toute sa surface. Et Mariner 9 était arrivé à ce moment-là, donc il n'y avait vraiment rien à voir. Et ils ont pu attendre, rester en orbite jusqu'à la fin de la tempête. Et à partir de là, ils ont travaillé pendant 2 ans, je crois, quelque chose comme ça. Et ils avaient une quantité d'instruments, des caméras, mais aussi des spectromètres dans l'infrarouge. Et ils ont fait donc des mesures précises de la composition atmosphérique, de la pression, et puis ils ont pris, évidemment, ils ont découvert les volcans, bien entendu.
Ah, ils ont tout découvert.
Ils ont découvert les volcans de Tarsis.
Il faut savoir que... Olympus Mons aussi, je crois.
Olympus Mons, c'est-à-dire, il faut savoir que Mars a les plus grands volcans du système solaire. Et ils ont découvert aussi cet immense canyon qu'on appelle le Valles Marineris, qui est absolument colossal à l'échelle de la planète.
Alors, Olympus Mons, on peut dire un petit peu les échelles de hauteur de ces volcans martiens, parce que c'est assez vertigineux pour nous autres petits terrestres de rien du tout, François.
Alors oui, c'est vertigineux parce que Olympus Mons domine la plaine qui est à côté de presque 25 000 mètres. Bon, son altitude par rapport au niveau de la mer, il n'y a pas de mer, hein, mais oui. on a défini un niveau zéro, c'est à peu près 21 000 mètres. Et puis à côté, il y a une grosse zone volcanique avec un très haut plateau. Et là-dessus, vous avez trois autres volcans, Arcia, Ascreus et Pavonis. Pavonis est encore au-dessus. Oui, c'est ça, Pavonis. Mm-hmm. Et donc, qui sont aussi quasiment à 20 000 mètres. Alors, cela dit, ça paraît impressionnant, mais bon, à voir en vrai, ce sont des grosses crêpes quand même.
Oui.
Il y a des endroits plus impressionnants, il y a des vraies falaises extraordinaire, et finalement c'est pas nécessairement Olympus Mons qui serait la montagne la plus incroyable. Mais ce qu'on doit rajouter, parce que déjà donc Mariner 9 révèle toute cette géologie volcanique, ça c'est pas non plus extraordinaire, mais finalement la découverte qui finalement reste celle qui a marqué et qui motive encore l'exploration aujourd'hui, c'est que c'est là où on a découvert qu'il y avait dans les terrains anciens, là où il y a beaucoup de cratères, parce que c'est des terrains exposés aux impacts météoritiques depuis longtemps, on commence à voir des traces de lits de rivière, aujourd'hui asséchés, bien sûr, l'atmosphère est beaucoup trop fine, et on se dit, autrefois, Mars était différente. Il y a dû avoir une période où Mars a connu de l'eau liquide, avait été couverte de lacs et de rivières. Ça a été confirmé depuis, et c'est à cette époque-là qu'on a commencé à se le dire, et ça a donné un double intérêt à Mars, quoi. Il y a la planète Mars active, intéressante, mais désertique et aride qu'on explore aujourd'hui. Et puis, via l'étude de sa géologie, la Mars autrefois qui était peut-être même propice à la vie. Donc ça excite beaucoup de recherches scientifiques encore maintenant.
Thérèse Encrenas, cette apparition de lits de rivière asséchés, ça a redonné un petit coup de boost à cette peut-être apparition lointaine de vie sur Mars?
Tout à fait. D'ailleurs, encore aujourd'hui, ça fait partie. On a maintenant une quantité tout un faisceau d'arguments en faveur justement de la présence de liquide passé. Et ces lits de rivière en est l'un des éléments les plus clairs. Mmh.
François Forget, on a aussi parlé, on évoquait tout à l'heure la présence des satellites de Mars, Phobos et Deimos. Là aussi, je crois que Mariner 9 va un petit peu les étudier. Est-ce que on se penche sur ces lunes de Mars durant ces missions un petit peu d'observation dans les années 70, ou bien est-ce qu'on les laisse un petit peu de côté?
Non, dès qu'on peut les croiser et prendre des photos, on a eu des photos. Ça a continué encore jusqu'à aujourd'hui. C'est intéressant, ces lunes de Mars, parce que encore aujourd'hui, alors la mode, entre guillemets, change de temps régulièrement, on se demande si ce sont des morceaux de Mars qui ont été mise en orbite suite, par exemple, à un impact d'une astéroïde qui aurait éjecté des roches et qui se serait accrétée en orbite, ou si c'est une astéroïde venue d'ailleurs qui aurait été capturée par Mars, via un mécanisme pas évident d'ailleurs. Et donc ce débat existe encore, et pour vous dire, c'est l'objectif d'une mission qui va être lancée en 2024 avec les Japonais, qui s'appelle MMX, auquel les Français du laboratoire de Thérèse participent. Bref, on s'y intéressait déjà, et ça continue, ils continuent à avoir leur intérêt scientifique, et effectivement, je crois qu'il y a des photographies de la caméra de Mariner 9 déjà, surtout de Phobos. Je suis pas sûr pour Deimos.
Oui. Bon, on va pas. C'est intéressant parce que on se pose aussi la question. Alors aujourd'hui, on se la pose beaucoup de la formation de Mars et de sa genèse et de sa jeunesse. Est-ce que c'est des questions qui se posaient déjà beaucoup, Thérèse Encrenas, dans ces années 70? Est-ce que on allait chercher de ce côté-là, ou bien est-ce que c'est venu plus tard?
C'est plutôt à la suite de toutes les missions que nous avons réalisées au cours des dernières décennies qu'on est arrivé finalement. Et je pense d'ailleurs que c'est peut-être le plus beau résultat qu'on a eu sur la planète Mars, c'est commencer à comprendre les grandes lignes de son histoire. Et ça a été possible grâce à toute une série d'observations de toutes sortes, de la surface, de l'atmosphère. Et ça a été possible aussi parce qu'on a pu mettre, en face de ces observations, on a pu mettre des modèles. Et là, François est bien placé pour en parler, parce que les modèles climatiques se sont nourris des observations qui étaient faites et ont permis de retracer, ils ont énormément aidé à retracer l'histoire climatique de la planète.
François Forget, sur ces questions qui se posent autour de la genèse de Mars et de sa formation, vous parliez à l'instant de comment ces satellites de Mars sont nés. Est-ce que ces questions-là sont aujourd'hui au cœur des tentatives de découverte des mystères de Mars?
Alors, je vais essayer d'avoir une. En fait, Mars, c'est vraiment reste un objet particulier dans le système solaire parce que le fait qu'elle ressemble beaucoup à la Terre par bien des aspects. Par exemple, son système météorologique est vraiment très proche parce que la rotation est similaire, les volcans, la géologie, on pourrait faire une longue liste comme ça. Et ça, ça la rend particulièrement intéressante parce que un peu comme en médecine, on s'intéresse aux autres animaux pour mieux comprendre la biologie humaine, bah on s'intéresse aux autres planètes pour mieux comprendre comment fonctionne la Terre. Alors de ce point de vue-là, Mars c'est quand même quasiment un chimpanzé quoi, ça ressemble beaucoup. Et c'est même plusieurs chimpanzés en même temps puisque en fait, effectivement, on explore une planète Mars actuelle, mais Mars présente de nombreux visages auxquels on accède via sa géologie et on voit qu'elle a connu des périodes par le passé. Alors, on a mentionné les périodes où elle était couverte de lacs et de rivières, elle a connu des périodes glaciaires plus récemment, des périodes où son atmosphère avait presque disparu et à chaque fois on peut enquêter sur ce qui s'est passé et on se dit qu'est-ce qu'on apprend pour la Terre, etc. Et ça, ce côté, ce qu'on appelle la planétologie comparée, on peut évidemment l'étendre, parce que c'était là votre question, à la formation. Et la formation, c'est, on se pose vraiment plein de questions sur comment s'est formée la Terre. Alors, on peut analyser, on peut essayer de comprendre comment s'est formée, bah, par exemple, la Lune, parce qu'on a plein de données grâce aux missions Apollo, et etc. Et bah, Mars, c'est pareil. Et par exemple, c'était comprendre comment se forment les planètes, comment elles fonctionnent leur intérieur, etc. C'était par exemple la motivation de la mission InSight de la NASA, mais avec une forte contribution française, qui consistait pas du tout à regarder si le climat ou l'eau liquide ou je ne sais quoi, l'eau passée de Mars. Non, c'était faire de la sismologie, comprendre qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur et comment elle s'est formée. Donc vos questions sont valides et toutes les questions concernant les planètes s'appliquent à Mars avec un intérêt particulier pour comprendre la Terre.
Et pour comprendre la géologie martienne, bien, il faut se poser sur la planète Mars. Là, on l'a survolée. Restez avec nous parce que dans un instant, justement, on va aborder ces missions qui ont abordé et atterri ou amarci après les missions Mariner. Mission par FKJ dans Eureka sur France Culture. Nous parlons tout au long de cette heure de mission et notamment de mission de découverte de la planète Mars en compagnie de Thérèse Encrenaz, astrophysicienne émérite à l'Observatoire de Paris et directrice de recherche CNRS. Avec nous également François Forget, planétologue et directeur de recherche CNRS au laboratoire de météorologie dynamique. Alors on en vient après le succès de Mariner 9 à une autre mission. Thérèse Ancrenaz, ce succès de Mariner 9 a donné envie à la NASA de voir plus grand encore et d'envoyer cette fois sur la surface de Mars un engin, un atterrisseur. Alors expliquez-nous un petit peu en quoi a consisté cette mission Viking et ce rêve un petit peu de la NASA d'explorer Mars depuis le sol.
Viking, ça a été une mission absolument extraordinaire à tout point de vue. Déjà, elle était d'une ambition considérable comparée aux précédentes, puisqu'elle était constituée de deux orbiteurs et deux rovers. On faisait tout en double à l'époque, on avait peur de l'échec. Et donc, il y avait deux missions identiques, en fait, deux orbiteurs identiques et deux modules de descente. Et l'ambition affichée, là, c'était de rechercher la vie. Et ces modules de descente étaient extrêmement complexes et ils avaient à bord trois expériences de biologie destinées à rechercher d'éventuelles traces de métabolisme pour mettre en évidence une forme de vie. Alors, je dirais tout de suite que la mission a été, d'un point de vue technique et scientifique, un succès énorme. Mais hélas, après beaucoup de controverses et de discussions, la communauté a fini par conclure qu'il n'y avait pas de traces de vie. Et là, la déception a été telle que le programme scientifique de la NASA sur Mars s'est arrêté pendant 20 ans.
Et ça, c'est fou. C'est fou. Il y a eu une espèce de désamour. Enfin, on a boudé Mars pendant 20 ans.
Tout à fait.
François Forget, il faut rappeler que cette mission Viking, c'est une des missions les plus chères qu'ait connue l'histoire de la NASA. Il y avait des espoirs, sans doute, j'imagine, très, très conséquents. Mais ces espoirs, enfin, voilà, cette mission, elle n'a pas été complètement inutile. Je crois qu'il y a encore des données de Viking qui sont exploitées par les chercheurs. Ça, c'est aussi assez dingue. C'était en 1976, on est en 2022. Et encore aujourd'hui, on se sert de ces données-là.
Ah oui, puis en plus, pour ce qui nous concerne, en tout cas ce qui me concerne, moi j'ai commencé il y a quelques années et pendant 10 ans, je ne travaillais que sur les données Viking et Mariner 9 d'ailleurs. Donc c'est les fondations de nos connaissances sur Mars. Alors faut imaginer l'excitation parce qu'effectivement, alors que finalement Mars, planète des extraterrestres, était encore un petit peu là, on se pose à la surface, on voit des paysages, on ramasse des échantillons, on regarde s'il y a de la vie. Et je me suis beaucoup amusé à discuter avec mes collègues un peu plus âgés qui travaillaient donc au centre de la NASA, d'où tout cela a été commandé, au JPL en Californie. Mmh. Et ils m'ont raconté qu'ils étaient étudiants, hein. Ils se glissaient sous la table, ils essayaient d'écouter, alors tous les jours les résultats, est-ce qu'on y a du métabolisme. Puis des fois, comme l'évoquait Thérèse, c'était un peu ambigu parfois. Il y a quelque chose qui grignote, pas qui grignote, mais qui consomme de l'oxygène, etc. Et donc c'était une grande excitation. Mais ce qu'il faut retenir aussi, c'est que ce sont des sondes, elles sont posées, elles ont pris des images, les satellites en orbite ont fait une cartographie systématique avec plusieurs instruments très bien conçus, qui ont vraiment cartographié, mesuré l'eau, mesuré beaucoup de choses à la surface aussi. Ça reste par exemple en ce qui concerne la météorologie, donc tout simplement les deux stations qui sont posées à la surface ont fonctionné plusieurs années en mesurant le vent, la température. Ça reste une référence pour la météorologie.
Et c'est une mission vraiment réussie. C'est une mission vraiment réussie par ailleurs, la mission Viking, Thérèse Ancrenaz, sachant qu'en plus l'exploration de Mars a été ponctuée de beaucoup d'échecs. Il y a eu beaucoup de casses pour aller vers Mars.
Absolument. Le succès scientifique de Viking est énorme et comme dit François, extrêmement important. Aujourd'hui, ça contribue à la base de données, ce que nous savons sur Mars aujourd'hui.
Alors, on l'a dit, Mars connaît une traversée du désert de 20 ans, à François Forget. Oui. Dans les années 90, les États-Unis et la NASA décident de se rabibocher avec la planète rouge. Alors du coup, qu'est-ce qui a motivé ce retour vers Mars au début des années 90?
Ce qu'il faut dire pour pas être trop méchant avec Mars, c'est qu'en gros, l'exploration planétaire a vraiment connu une espèce de pause dans les années la génération Voyager Viking, puisque en fait dans les années 80, il y a eu que deux missions planétaires qui ont été lancées, les deux en 89, donc il y a rien eu. Il y avait un gros projet, une mission assez prodigieuse qui a été conçue, qui a été lancée en 92, qui devait arriver en août 93, qui s'appelait Mars Observer, un satellite d'observation, donc un orbiteur, un satellite très ambitieux, mais qui a explosé juste en arrivant. Quand on a commencé à préparer la mise en orbite, faut rallumer les moteurs pour freiner, sinon on continue tout droit. Donc pour se mettre en orbite, faut allumer les moteurs. Et je m'en souviens, là j'étais déjà dans le métier, en août 93, perte de cette mission. Ah donc déjà ça faisait presque 15 ans qu'on attendait une nouvelle donnée et d'un coup rien encore. Et donc il faudra attendre des missions qui vont reprendre les instruments qui avaient été conçus pour cette grosse mission Mars Observer. Et la première mission qui a fonctionné. Donc ça, c'est côté américain, attention. Hein. Mm-hmm. C'est finalement la sonde Mars Global Surveyor, on va pas faire la liste, qui arrive en 97, qui commence vraiment sa mission scientifique. Mais il faut souligner, puisque Thérèse, je pense, a travaillé pas mal dessus, une mission russo-européenne qui s'appelait Phobos 2, mm-hmm. qui a quand même été voir un petit peu Mars dans les années, à la fin des années 80.
Voilà. Parlons-en justement, parce que c'est vrai que là, on a essentiellement parlé de la NASA. À partir de quand l'Europe, l'ESA, alors, par exemple, se tournent vers Mars aussi?
Côté Union soviétique, ils se sont focalisés sur Vénus avec une série de missions extrêmement productives. D'ailleurs, c'était les missions Venera. En 75 déjà, ils se sont posés sur le sol de Vénus. Et il faut voir ce que c'est que se poser sur le sol de Vénus, sachant qu'il y a une pression de 90 bars, une température de 460
degrés Celsius. C'est pas les 0,7 millibars de...
C'est vraiment extrêmement difficile. Ils ont réussi donc à se poser, à envoyer des images, à faire des mesures, bon, plus ou moins réussies, mais enfin quand même, ils l'ont fait. Et ensuite, ils ont continué. Il faut se rappeler qu'en 86, il y a eu un autre événement important. C'était la rencontre de la comète de Halley. Mmh. Or, les Soviétiques, justement, dans leur dernière mission Venera, l'ont transformée pour aller ensuite rencontrer la comète de Halley. C'était la mission Vega. D'ailleurs, la France a été très impliquée dans cette affaire-là. Et puis après, ils ont décidé qu'ils allaient passer sur Mars. Surprise générale, d'ailleurs, je me rappelle du colloque où ça a été annoncé, à partir de maintenant, on va sur Mars. Et donc, ils ont préparé une mission qui s'appelait Phobos, qui malheureusement a échoué, enfin, à moitié échoué. Disons que l'un des véhicules a été perdu en croisière, et l'autre a fonctionné sur Mars pendant quelques semaines, et puis a été perdu également.
Donc ça c'est pour les bilan. Voilà. Mais quand même, l'Europe s'était mise aussi en marche vers Mars, et on verra qu'il y a eu de grands succès depuis, grâce à des travaux de chercheurs européens et de l'Agence spatiale européenne. Donc si on en revient un petit peu aux années 90, François Forget, la NASA donc propose avec Sojourner un premier rover qui circule sur la planète de Mars. Donc là aussi c'est une mini révolution. Ça, c'est ces rovers qui commencent à déambuler sur la planète Mars. Aujourd'hui, c'est devenu presque monnaie courante, mais il faut rappeler que c'est pas si simple que ça. Et qu'est-ce que ces rovers-là ont comme intérêt par rapport à un atterrisseur qui va, par exemple, scruter ses environs?
Oui, alors, ça, c'est vraiment une époque que j'ai bien connue. Donc, effectivement, on avait eu les deux atterrisseurs vikings. Ça avait été un petit peu frustrant. Les images des zones où vikings atterrissent sont assez belles. C'est des grands déserts. Évidemment, c'est des zones très plates parce qu'on ne peut pas atterrir sur une falaise, quoi.
Ça, c'est aussi tout un des grands dilemmes. Où est-ce qu'on se pose sur Mars? Parce que c'est un terrain très accidenté.
Ouais. Et puis, il ne faut pas que ce soit trop en altitude, parce que sinon l'atmosphère, si la pression est trop faible en altitude, on peut pas freiner assez avec les parachutes, etc. Donc en tout cas, Viking, vous voyez des très beaux rochers à côté, et c'est frustrant de pas pouvoir les analyser. Donc on a commencé à dire, il faut pouvoir se déplacer pour pouvoir aller voir tel affleurement de roche, tel rocher, etc. Donc en 96, à la suite d'une longue histoire que je ne vais pas raconter, au début on voulait faire toute une série d'atterrisseurs, une espèce de réseau qui s'appelait Measure Network. On a fait une mission particulière qui s'appelle Pathfinder, donc Pathfinder éclaireur, pour démontrer la faisabilité de se poser sur Mars à nouveau. Et là, on a mis un petit rover qui fait la taille, les Américains disent toujours, d'un four micro-ondes, et qui était capable de se promener. Alors, il a fait que quelques dizaines de mètres. Maintenant, on fait des kilomètres avec les rovers. Mais c'est juste un démonstrateur technologique et qui a bien marché. Et depuis, on a vraiment pu décliner ça. Il y a eu 4 rovers américains par la suite, un rover chinois, un rover européen, malheureusement, qui est toujours pas parti. Mais effectivement, ça a fait des émules. Et donc, cette année-là, donc on parle du lancement en 1996, l'arrivée en 97, c'était quand même le renouveau, vraiment d'une nouvelle vague, puisque on a eu donc deux missions cette année-là, avec l'atterrisseur d'une part, et puis la mission que j'évoquais tout à l'heure, l'orbiteur Mars Global Surveyor. 98, les États-Unis avaient à nouveau l'idée d'envoyer plusieurs missions. Bon, elles ont toutes échoué. Mm-hmm. Il y a aussi une mission japonaise. Elle a échoué aussi.
Le démon de Mars n'était pas complètement évacué.
Et puis par la suite, en 2001, encore une autre mission qui fonctionne encore, Mars Odyssey. En 2003, une mission européenne qui s'appelle Mars Express. Donc après cela, tous les deux ans, c'est-à-dire à chaque fois que l'on peut lancer, à chaque fois que Mars passe à côté de la Terre et qu'on peut lancer une mission vers Mars, depuis quasiment à chaque opportunité, on lance des missions vers Mars. Et ça date de 96.
Ça, c'est très intéressant parce que justement, depuis une vingtaine d'années, Mars, on a l'impression que c'est devenu un terrain de jeu de l'observation planétaire, Thérèse Ancrenaz. Alors, qu'est-ce qu'on cherche sur Mars? Qu'est-ce qu'on cherche à comprendre? Qu'est-ce qu'on cherche à découvrir? Et qu'est-ce qu'on a découvert grâce à ces nombreuses missions qui sont toutes différentes, mais qui tentent vraiment de dresser un portrait aussi fidèle que possible de Mars?
En fait, quand on est arrivé à la fin du siècle dernier, en fait, on avait quelques indices que l'eau avait coulé. À la surface de Mars dans le passé, il y avait les images que vous avez mentionnées, il y avait d'autres mesures qui avaient été faites à partir du gaz. On mesure le deutérium, donc sans rentrer dans les détails, quand on fait la mesure du deutérium, la quantité de deutérium dans l'atmosphère, on arrive à mettre en évidence s'il y a un enrichissement. Cela traduit le fait que l'eau a été très abondante dans le passé. Donc il y a eu comme ça un certain nombre d'indices. Et puis après, alors les indices se sont multipliés avec chaque orbiteur. Il y a eu Mars Global Surveyor, donc qui a soulevé l'idée que peut-être il y avait un océan global il y a 3 milliards d'années. Alors ça n'est pas encore tout tranché. On sait qu'il y a eu de l'eau, mais on n'est pas sûr qu'elle soit sous forme liquide ou solide. Mais enfin, bon, donc, il y avait cet indice-là. Et puis, Mars Odyssée, dont parlait François, il y a eu une mesure de spectromètre gamma qui a montré qu'il y avait de l'eau sous les pôles, donc sous forme de soit de glace, soit de pergélisol. Et puis après, Mars Express a montré qu'à part spectroscopie infrarouge, ça c'est quelque chose qui a été fait par un laboratoire français à Orsay, il a montré qu'il y avait des argiles dans les terrains anciens. Or, les argiles, selon les géologues, ça nécessite la présence d'eau liquide en abondance pour être formée. Et voilà. Et donc, tous ces indices-là allaient dans ce sens que l'eau avait vraiment coulé. Maintenant, la question restait à savoir quel était le volume initial d'eau. Mmh. Et là-dessus, alors je crois qu'encore aujourd'hui, ça varie de quelques dizaines à un millier de mètres équivalents, c'est-à-dire la hauteur équivalente, c'est pour la Terre, c'est 2,7 km, c'est ce que représenterait un océan sur la totalité de la surface. Donc 2,7 km dans le cas de la Terre, et puis dans le cas de Mars, c'est entre quelques dizaines de mètres et un millier, donc il y a une forte incertitude.
François Forget, on parle d'eau, on parle d'océan, on parle de rivière sur Mars, mais elle est passée où cette eau? Et qu'est-ce qu'on sait de cette disparition, de cette évaporation de l'eau de Mars?
Ouais, ça c'est une bonne question parce que finalement ça revient à dire pourquoi Mars n'a pas connu le dessin de la Terre, pourquoi pourquoi on n'a pas continué avec les lacs et les rivières et puis les dinosaures, etc. Bon, alors plus que la question de savoir qu'est-ce qui est arrivé à l'eau, parce qu'il en reste beaucoup, sous forme de glace, il en reste beaucoup. La vraie question, c'est qu'est-ce qui est arrivé à l'atmosphère? Et l'atmosphère d'il y a 3 ou 4 milliards d'années, on imagine une épaisse atmosphère plutôt de CO2. Donc, qu'est-ce qui est arrivé au CO2? Et ça, c'est une vraie aussi enquête en cours. Alors, en gros, on peut se dire deux choses. On peut se dire que le CO2 dans une atmosphère où il y a des lacs et des rivières, le CO2 se dissout dans l'eau, dans le lot des lacs, par exemple. Et sur Terre, ça a tendance à former des roches calcaires, des carbonates. Et sur Terre, ça s'accumule. Donc, on a presque plus de CO2 dans l'atmosphère, heureusement. Malheureusement, on en met un petit peu trop maintenant. Oui. Mais disons, il y a l'équivalent de dizaines de barres de dioxyde de carbone sous forme de roches calcaires dans les falaises d'Étretat et ailleurs. Alors, ça, simplement sur Terre, ces carbonates sont recyclés parce que il y a le phénomène de la tectonique des plaques qui fait que toutes les roches sont, au bout d'un moment, sont un peu recyclées via les volcans. Mars n'a pas de tectonique des plaques, donc on s'est dit ce qui a pu se passer, c'est que le CO2 a été consommé sous forme de roches calcaires et puis il n'a jamais été recyclé, il est resté piégé sous forme de cailloux. Et alors, on s'attendait donc à découvrir plein de roches calcaires. Eh ben, pas du tout, on n'en trouve presque pas. Donc, c'était peut-être pas la bonne réponse. C'est pas encore clair, mais a priori, c'est pas la bonne réponse. Autre possibilité, c'est que ce CO2 soit échappé dans l'espace. Et là encore, c'est pas évident. Parce que, alors évidemment, sur la Lune, par exemple, où la gravité est très faible, si on met du CO2 autour de la Lune, le simple mouvement thermique des molécules suffit à l'éjecter dans l'espace, en fait. Si vous faites ça sur Terre, rien ne bouge, à part peut-être l'hydrogène. Mars, c'est intermédiaire, mais en fait, on voit que le mouvement thermique suffit pas à éjecter le CO2, ni eau, ni rien dans l'espace. Il faut des mécanismes qu'on étudie. Ces mécanismes sont assez compliqués. Il faut parfois il y a des réactions photochimiques qui font que un atome d'oxygène va être très énergétique, va être éjecté, ou alors le vent solaire va créer un champ magnétique qui fait que les ions vont être accélérés, etc. Alors on mène l'enquête. Par exemple, une mission américaine qui s'appelle MAVEN avait été complètement conçue pour mener cette enquête-là et montre que bah oui, peut-être qu'on aurait pu perdre l'équivalent d'une atmosphère ou une demi-atmosphère dans le passé, mais c'est pas évident parce que ça dépend du soleil, etc. Donc, résultat des courses, le plus probable, c'est que cette atmosphère initiale a été doucement perdue suite à des mécanismes complexes qui font que le CO2 doucement mais sûrement s'échappe dans l'espace. On ne sait pas combien. Et mais ce qu'on peut retenir de cela, d'ailleurs, quelle que soit la théorie, que ce soit l'échappement dans l'espace ou le fait qu'il n'y ait pas de tectonique des plaques, à chaque fois la conclusion c'est que Mars est un peu trop petite. Mmh. Si elle était plus grosse, il y aurait plus de gravité, elle renouvellerait ses roches et il y aurait toujours un peu de carbonate qui recréerait du CO2, donc elle est un peu trop petite et ça l'a empêché vraiment de garder une atmosphère digne de ce nom.
On peut rappeler peut-être le diamètre de Mars, je crois que c'est moitié moins la Terre, hein, ouais. C'est ça.
Mais surtout la masse c'est le dixième, et c'est ça le facteur important, parce que comme la masse est le dixième de la masse terrestre, eh bien, d'une part, le champ de gravité est très faible. Or, il y a une partie de l'atmosphère qui est accrétée par bombardement météoritique. Et puis, d'autre part, il y a beaucoup moins d'énergie interne, puisque ça dépend des éléments radiogéniques qui sont à l'intérieur. Et ceci, ça explique vraisemblablement que Mars ait été active au début de son histoire, parce qu'en fait, on a aussi la preuve qu'au premier milliard d'années, il y a eu une dynamo, il y a eu un champ magnétique. On le sait parce que l'une des sondes en question a trouvé les traces d'un champ magnétique fossile dans les terrains anciens. Donc on sait que pendant une certaine période, Mars a été vraiment actif. Et puis, petit à petit, sans doute à cause de sa réserve insuffisante d'énergie interne et d'autres phénomènes, bombardements, etc., eh bien, elle a petit à petit perdu on ne sait pas encore très bien comment, son atmosphère et puis sa vapeur d'eau.
Quand on parle des missions martiennes, on peut difficilement oublier Curiosity également, qui était un rover qui embarquait, c'était une espèce de laboratoire ambulant à la surface de Mars. Ça a été l'un des grands succès au tournant des années 2010 de la NASA à nouveau en matière d'exploration martienne. Parmi les dernières, on pense à Perseverance, François Forget, là aussi une des plus grandes réussites qui est offerte la science ces dernières années. On pense, bien sûr, on parle beaucoup du JWST en ce moment, mais Perseverance, ça a été quelque chose aussi. Alors là, où est-ce qu'on en est de cette mission-là et quelle importance ça a à l'échelle de la découverte de Mars?
Ce qu'il faut souligner, c'est que Mars, effectivement, est observé reste un vrai objet d'étude. À l'heure où on parle maintenant, il y a 8 satellites en fonctionnement qui étudie la planète Mars, et il y a 4 engins à la surface qui fonctionnent. Alors il y en a plein qui sont mais qui ne fonctionnent plus. Donc ça fait quand même pas mal d'enquêtes scientifiques, et parmi effectivement les objets les plus importants, c'est Curiosity qui marche encore, hein. Il va fêter son 10e anniversaire. On va fêter le 10e anniversaire de son arrivée sur Mars cette année au mois d'août. C'était en août 2012, atterrissage. Et puis Perseverance, c'est effectivement une belle réussite, ressemble beaucoup à Curiosity, mais ce qu'il faut dire, c'est Perseverance propose une nouvelle étape dans l'exploration de Mars, puisqu'il prépare le retour d'échantillons soigneusement choisis, vers la Terre. Et avec ça, avec les méthodes modernes et la précision des analyses qu'on peut faire dans les laboratoires terrestres, ça va être révolutionnaire. Alors pour préciser, donc Perseverance est atterri comme Curiosity quelque part au fond d'un ancien lac, on en a parlé tout à l'heure, donc c'est un endroit quand même extraordinaire, on sait qu'il y a eu le liquide et des sédiments. Si on était sur Terre, on verrait sûrement des coquillages. Bon, on n'est pas sur Terre, mais on voit pas de coquillages, mais on se demande bien quand même ce qui a pu se passer. Ramasse des échantillons, les met dans des petits cylindres bien scellés, les prépare pour que dans quelques années, une autre mission vienne les chercher, les met dans une petite fusée et on les ramène sur Terre. L'agence spatiale européenne, les Européens sont très impliqués là-dedans. Le module qui fera le retour vers la Terre est européen. Et donc là, on aura certainement une nouvelle étape, une nouvelle révolution dans la recherche, puisque on pourra non seulement regarder si on trouve des mini coquillages ou des bactéries ou quelque chose de bizarre, certainement, enfin c'est peu probable, mais on mène l'enquête. Et puis, ce faisant, on fera plein d'études extraordinaires, ce que peut permettre la géochimie isotopique moderne, je ne vais pas entendre les détails, qui va certainement nous faire passer un nouveau cap dans notre compréhension de la planète.
Thérèse Ancrenaz, si on dresse un bilan justement de cette compréhension de la planète, qu'est-ce qui reste énigmatique avec Mars, cette présence d'eau qui n'est plus, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme grande question?
Il y a évidemment le problème de savoir si la vie a existé, mais là-dessus on n'a pas la question reste ouverte. Hein. Personnellement, je pense qu'il faudrait beaucoup de chance pour trouver des échantillons, tomber sur des échantillons qui soient significatifs, parce que c'est quand même chercher une aiguille dans une botte de foin, de rechercher des échantillons. Mais par contre, comme dit François, on apprendra énormément de choses sur leur composition. On fera toutes les analyses qui ont été faites sur les échantillons lunaires du temps d'Apollo avec les instruments qui existent en laboratoire.
Et les autres questions brûlantes aussi autour de Mars, c'est bien sûr la question d'y aller ou pas, d'envoyer une mission habitée ou non. François Forget, ça c'est des questions qui animent des débats houleux dans la communauté scientifique, ou bien est-ce que c'est plutôt assez tranquille, on se dit que ça va être compliqué?
Non, il y a un débat. En fait, le débat, il est pas aussi évident, est-ce qu'il faut y aller ou pas. Le débat, il est lié au fait que envoyer des humains vers Mars, ça coûte vraiment une fortune. Et donc, on peut pas justifier ça par la recherche scientifique. C'est-à-dire que je peux pas me tourner vers... Par exemple, on a besoin, je sais pas, de 200 milliards d'euros. Alors, c'est difficile de se tourner vers des cancérologues et leur dire, bon, le cancer, c'est sympa, mais nous, on doit comprendre les cailloux sur Mars. Oui. On doit envoyer des astronautes. Donc là, on se retrouve à devoir réfléchir sur le fait que on envoie des hommes sur Mars pour faire autre chose que la science. Ils peuvent... Attention, les astronautes sur la planète Mars pourront faire une science extraordinaire qu'on ne pourra pas faire autrement, mais avec un coût très élevé. Et donc le débat, c'est est-ce que les autres raisons, qui sont un peu irrationnelles, parfois même puériles, là il faut envoyer un humain, ça va être formidable, une belle aventure, c'est mieux qu'un film d'Hollywood. Est-ce que les gens adhèrent à ça ou pas? Alors quand on est un scientifique très sérieux, on se dit, bah non, pour faire la science, avec 200 milliards de dollars, on pourrait faire des robots extraordinaires et vraiment faire plus. Mais en même temps, on n'aura pas 200 milliards de dollars pour faire des robots. Donc voilà mon avis. Moi personnellement, parce que je suis un peu infantile, et puéril, et fasciné par l'exploration. J'aime bien l'idée que malgré les problèmes qu'a notre planète, la pauvreté, l'environnement, etc., je trouve ça... Je fais partie des gens qui sont motivés pour qu'une toute petite fraction de leurs impôts, c'est vraiment un problème de contribuables quasiment, participent à envoyer des ambassadeurs, des collègues, des amis, des cousins sur la planète Mars et vivent cette aventure. Mais je peux comprendre que scientifiquement, ce soit pas le plus efficace.
T'as raison,
Conan. Oui, ben moi, justement, moi,
j'ai
l'avis inverse, c'est-à-dire que je pense effectivement que le jeu n'en vaut pas la chandelle à tout point de vue. Déjà, il y a des difficultés immenses, énormes, qu'on sous-estime complètement. Et indépendamment du coût même, bon, je ne vais pas les détailler là, mais ça a été fait dans certains livres. Et alors, déjà, donc, je pense que, comme dit François, la science ne justifie pas qu'on envoie des hommes. Et quant au délire concerne la colonisation martienne, alors là, c'est de la folie pure. Et la terraformation, qui consiste à vouloir changer l'atmosphère de Mars, alors là, c'est de la folie pure. Il faut le dire et le répéter.
On restera sur cette note franche et nette concernant Mars. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux, Thérèse Encrenaz et François Forget, de nous avoir accompagnés dans les déserts de Mars tout au long de cette heure. Et on se quitte, comme chaque jour, en musique.
Mistero, riaccendi la luce, chi c'era? Lì nella tua voce bagliore
Mistero par Andrea Laszlo da Simone. Et pour en finir, en survolant la mystérieuse planète Mars, un grand merci à toute l'équipe de Reka, Alexandra Delbo, Mariam Ibrahim, Loïc Dutoit, Garance Prema Agnolo. À la réalisation aujourd'hui, Sam Bakiast et David Jakuboviez. Merci beaucoup David pour ces deux semaines de réalisation de Reka. À la technique aujourd'hui, c'était Ludovic Auger. Vous pouvez comme chaque jour réécouter cette émission sur le site franceculture.fr ou bien sur l'appli Radio France. On se retrouve bientôt dans le grand bain d'Eureka. Et d'ici là, n'oubliez pas, tout reste à découvrir.
Chloé ?
Oui ?
Tu viens ? Je vais te montrer les étoiles.
Moi, les étoiles, je suis pas contre. Surtout si ça me fait aller me coucher plus tard.
Le premier podcast France Culture, Savoir et Science, dédié à la jeunesse. Les mondes de Chloé, le nez en l'air et la tête dans les étoiles. Histoire de grandes et petites ours, entre fiction et astronomie. La première saison consacrée au ciel et aux constellations. Les mondes de Chloé, à la belle étoile, par Alice Buteau et Charlotte Roux, sur franceculture.fr et l'appli Radio France.